Alors, mademoiselle le docteur Harry Lant, pardon, je n'arrive pas à prononcer son nom. Comme elle vient de dire, est une jeune collègue malgache qui a fait sa thèse avec quelqu'un que vous avez vu ici, qui est le professeur Éric Roubézi de Toulouse. Harry Lant est A-T-E-R, A-T-E-R. Oui, on est dans un pays où on parle beaucoup en acronyme. C'est horrible, mais c'est comme ça. A-T-E-R, ça veut dire attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc, elle est A-T-E-R au Collège de France. Elle travaille et elle va vous parler du peuplement humain de Madagascar, cette grande et belle île de l'océan Indien dont elle est originaire. Et on a envisagé tous les deux d'aller peut-être voir si on peut trouver des choses encore amusantes sur les peuplements de Madagascar. Vous allez voir que là encore, il y a beaucoup à faire et beaucoup à dire et beaucoup de choses intéressantes. Harry Lant, c'est à toi.
Donc, premièrement, avant toute chose, je remercie le professeur Michel Brunet de m'avoir permis de faire cette présentation ici devant vous, que je fais avec plaisir, même si vous devez sentir un peu de stress. Et ensuite, je m'excuse déjà à l'avance, parce qu'on me l'a déjà fait noter, je fais quelques erreurs de genre. Alors, le stress grandissant, moi parlant toute seule devant vous, je n'ai certainement pas vu voir passer certaines fautes de genre. Donc, je vais vous parler de ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas sur le peuplement humain de Madagascar, qui fait donc partie de la suite de ces lignées de conférences, à commencer par celle qui a été réalisée par Christine Kaiser sur les populations anciennes, étude à partir de l'ADN ancien. Le professeur Rick Krubezi également, qui a présenté, en restant dans le continent africain, le berceau au moins des hominidés, donc avec les peuplements récents et peuplements modernes. Et moi, ben, je vais juste me détacher à peine de l'Afrique, je vais vous parler de l'histoire du peuplement humain de Madagascar, qui, comme vous l'a annoncé le professeur Brunet, est sujet à débat, et vous allez le voir. Alors, je me plonge dans le noir pour saisir au fait ce vaste espace qu'est l'océan Indien, dans lequel se situe Madagascar, dans cette partie occidentale, juste à côté des côtes est africaines. Alors, ces différentes flèches, en fait, sont là pour illustrer que ce vaste espace était le terrain de nombreux flux migratoires, et ce, depuis les migrations de l'homme moderne, homo sapiens, hors de l'Afrique, jusqu'à une période historique récente, qui a amené certains chercheurs historiens à décrire l'océan Indien comme étant une vaste Méditerranée. Donc, de très nombreuses régions sont impliquées, notamment le sous-continent indien, et puis dans l'est, vous avez l'archipel indonésien qui est un peu vu en trois quarts. Donc, que savons-nous sur le peuplement humain de Madagascar ? Alors, un peu de généralité, c'est une île, très grande île, alors je vous mets en référence un peu la France pour avoir un élément de comparaison. 594 000 km², avec ses 19 millions d'habitants, en comparaison par rapport à la France, là, on a l'impression que Madagascar est pas très sous-peu peuplé, et avec une très grande diversité de groupes ethniques, alors là aussi qui est une définition sujet à débat chez les spécialistes, donc 18 à 22, donc il y a déjà, on sent une hésitation, voire une cinquantaine de différents groupes ethniques. En tout cas, on a une grande diversité de populations qui parlent tous une seule langue unique, qui est le malagas. Le malagas, au fait, c'est le nom original, originel de malgache. Le malagas a été francisé et est devenu malgache. Donc le malagas est la langue originelle et qui définit d'ailleurs les populations malagas de Madagascar, qui a une origine, comme vous le voyez ici, dans les îles des archipels indonésiens, avec une affinité à 90%, et qui s'est mélangé avec une langue africaine, donc c'est la langue austronésienne. Austronésienne, en fait, c'est des langues qui sont parlées ici, donc dans ces îles indonésiennes, et qui a rencontré des langues africaines, des populations qui ont langue africaine, et qui en a l'a absorbé et est devenu le malagasy. Beaucoup de linguistes, par exemple, définissent le malagasy comme étant une créolisation d'une langue austronésienne par une langue mantoue, donc va absorber certains syntaxes de cette langue austronésienne. Ce n'est plus à démontrer, vous avez dû en voir certaines, de nombreuses photos sur Madagascar, mais ici c'était pour illustrer vraiment ce mosaïque de peuplement qu'on observe à Madagascar. Alors peut-être que je ne suis pas du tout représentatif vu mon phénotype qui est vraiment peut-être très dominante indonésienne, mais par exemple moi, sur ma lignée maternelle, j'ai une lignée qui est très commune dans les îles de l'archipel, enfin dans les archipels indonésiens, alors que certainement, via mon grand-père paternel au moins, j'aurais des lignées des origines africaines. Donc, tout ça, en fait, juste pour illustrer ce mosaïque de peuplement que vous avez ici, avec cette double composante principale, donc ceci vous conviendrait sûrement beaucoup mieux, double composante principale africaine et indonésienne, pour faire court, venant des îles du sud-est asiatique. Je le dis de cette façon parce qu'on ne détermine pas encore précisément les origines. Donc, par des études qui ont été publiées récemment par Toffanelli, Hearns et Cox, qui, on le voit bien, à travers les différentes populations du sud-est et du centre de Madagascar, cette dominance, avec d'autres lignées qui sont plutôt des lignées d'origine eurasienne, donc qu'on trouve dans le Moyen-Orient. Alors, que sait-on de l'occupation de l'île ? Alors, j'ai fait exprès de vous montrer cette carte, parce qu'on la voit assez souvent, qui montre, au fait, et qui... la carte qu'on voit souvent dans la littérature, qui explique que le peuplement humain de Madagascar ne pouvait être que très récent, que ne daterait que d'il y a 1500 ans environ. Alors, je vous explique, le B ici, en fait, ça marque des lignées. Et ces lignées, ce sont les B que vous voyez ici, ce sont des lignées qui marquent les expansions austronésiennes, donc des langues, des populations qui parlent des langues austronésiennes, vers le Pacifique, vous voyez jusqu'ici, et également à Madagascar. Et il semblerait, en tout cas, en ce qui concerne les migrations austronésiennes, elles auraient commencé il y a 5000 à 6000 ans. Madagascar, on dit que le peuplement n'a commencé qu'il y a 4000 ans. On dit souvent aussi que Madagascar n'a pas de préhistoire. Alors là, il y a une définition déjà du préhistoire qui est assez, assez complexe, mais certainement en le reliant peut-être avec le continent africain qui est juste à côté, qui a une longue préhistoire, ce qui vous est relaté ici tous les jeudis. Donc, que sait-on ? Ce qu'on observe, c'est qu'on a un changement écologique drastique à Madagascar au cours de l'Holocène, dès la fin du Pléistocène jusqu'au début de l'Holocène, et ensuite qui se poursuit jusqu'à il y a 1500 ans environ. Et cela, on observe dans la composition faunistique, et avec une observation d'une extinction progressive et massive des herbivores qui étaient présentes sur l'île, des grands herbivores. Donc il y avait des hippopotames nains qui n'existent plus, qui ont disparu donc, il y a 1500 ans. La Hippiornis, qui est cet oiseau géant, alors j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop l'homme à côté pour avoir une idée de la taille, des tortues géantes, des grands meuniens, etc. Donc toutes ces espèces auraient disparu. Suite à alors, la discussion, est-ce que c'est l'homme qui a entraîné sa disparition ou est-ce qu'il y a eu des phénomènes naturels ? Toujours est-il que sur le plan du couvert végétal, ce qu'on observe, c'est également des changements sur le couvert végétal avec des feux naturels qui ont été absorbés à travers les sédiments lacustres et qui a entraîné un paysage en mosaïque à travers Madagascar. Alors, les sédiments lacustres vont nous donner en effet des informations sur les événements écologiques à travers, par exemple, la détection de pics de charbon, de différents pollens qui sont également détectés dans le sol. Et donc, cette sécheresse, cette période s'accompagne donc d'une augmentation du pic de charbon en même temps que l'augmentation de pollen herbacée. Donc, cet événement s'est déroulé entre la fin du Pléistocène, début de l'Holocène. On assiste ensuite à une intensification de cette transformation à partir du moment supposé de l'arrivée des hommes ou du début du peuplement humain sur Madagascar. Et on assiste à un éclaircissement de paysage qui serait dû donc à des phénomènes de feu naturel, feu de brousse. Pour l'instant, on ne sait pas quelle pratique a entraîné ces différents événements. Pour l'instant, on ne sait pas également. Donc, qui aurait commencé il y a 1900 ans dans la région du sud-ouest, 1300 ans dans la région du nord-est et 1900 ans dans le centre de l'île. Donc, les pratiques qui auraient amené à ces disparitions, pour l'instant, ils ne sont pas encore totalement claires. Mais ces données paléo-environnementaux ont permis à ces chercheurs de dresser une histoire de peuplement qui aurait commencé à partir du sud-ouest de l'île. Ensuite, nous avons des traces archéologiques. Alors, j'ai mis 1er siècle, mais c'est plutôt 5e siècle, parce que les premières traces qu'on observe, au fait, nous sommes ici à l'extrême nord, cette région-là, à l'extrême nord de Madagascar, où les premières traces d'occupation humaine visibles sont observées dans une grotte qui faisait 125 mètres carrés de surface et qui semblerait avoir été occupée par des chasseurs-cueilleurs, parce qu'on a trouvé des amas, des restes osseux de faune qui semblent avoir été consommés donc, par les populations qui résidaient dans cette région. Également des amas de charbon qui ont été datés et qui ont permis d'ailleurs de donner cette chronologie du 5e siècle et certains autres éléments qui montrent que ce sont des chasseurs-cueilleurs qui n'ont pas eu de grands impacts avec l'environnement qui était là. Alors, les chercheurs sont prudents, ceux qui racontent ou qui travaillent sur cette période archéologique, et disent que probablement nous avons affaire à des visites et pas des occupants permanents. Alors, ensuite, les archéologues vont voir dans les mêmes régions, du nord-ouest, du sud, du centre. Et ce qu'ils observent, c'est qu'à partir du 9e siècle, on va observer et voir une occupation permanente continue de ces différentes régions. Donc, ils vont voir se mettre en place la culture du riz, le pastoralisme, la pêche, de l'extraction de fer qui va devenir de plus en plus importante, des échanges à l'intérieur des groupes. Donc, c'est en voyant, en comparant les différents éléments, les objets retrouvés, qu'ils en sont arrivés à ces conclusions, mais également des échanges avec l'extérieur, parce que certains objets, notamment ces fameux marmites en chloritochis, qui est retrouvé essentiellement à Madagascar, des marmites à trois pieds, sont retrouvés, par exemple, dans les îles Comores, mais notamment dans les îles africaines, et il semblerait aussi dans le sous-continent indien. Donc, on observe des échanges. Dans le sud, on observe une coexistence d'une multiplicité de communautés, de populations, de chasseurs-cueilleurs, d'agriculteurs, de pêcheurs en même temps. Donc l'île commence à être bien occupée. Et à partir du XIVe siècle, on assiste à une réelle urbanisation. Alors, la première ville qui a été décrite est celle du port de Maïlac, qui est un port islamisé. À travers l'île, on va observer un certain nombre d'objets importés, l'intensification des différentes cultures et pratiques qui ont été faites, qui ont été déjà pratiquées antérieurement, comme la culture du riz, l'extraction de fer, le chloritochiste, etc. Donc tout ça va devenir de plus en plus massif. Dans le sud-est, alors dans cette région du fin Zaïre-Abbé, on voit en fait l'émergence d'une civilisation hiérarchique qui est, je note ici, qui est le, enfin, Zahir Abbey étant le centre historique des Aframini. Je vous en parlerai plus amplement plus tard. Ce site a en fait montré une stratification dans la construction, avec une construction autour d'une colline sur laquelle se situeraient les élites et autour des populations qui semblent être organisées de façon à être assujetties à l'élite placée sur ces collines. Donc ces organisations sur des collines sont également observées ensuite dans le centre de l'île, ce qui semble noter certains échanges, dont je vous parlerai également plus tard. Et des échanges avec l'océan Indien vont devenir de plus en plus systématiques. Donc là, nous étions avec les traces archéologiques vers le 15e siècle, et qu'observe-t-on sur le plan mondial? Ce sont les Portugais qui sont les premiers Européens à découvrir Madagascar. Alors, ici, nous avons une illustration de l'exploration des côtes est africaines jusqu'au sud de l'Inde par Vasco de Gama. Donc, c'était une timide exploration au cours de laquelle le voyageur a déjà observé que des populations musulmanes venant du péninsule arabique étaient déjà dominantes dans cette région de la côte est africaine. Et que cette région, comme je vous montrais tout à l'heure, qui était donc décrite comme étant une vaste Méditerranée, est en fait une région où il y avait des vents favorables qui favorisaient de nombreux systèmes, les systèmes de navigation, donc des moussons d'été, des moussons d'hiver, qui formaient un véritable triangle commercial. Donc ici, c'est à l'instar de triangle transatlantique, avec reliant les côtes est africaines, le sud de l'Inde, la péninsule arabique d'une part, mais également implique la Chine, qui profite aussi d'un système de navigation qui est facilité. Donc ce qui est échangé, ça va être, venant de l'Inde, du coton, venant de l'Afrique de l'Est, de l'or, de l'ivoire, des esclaves, de façon importante. Donc là, on assiste à des traites massives. On échange également d'épices venant des îles du sud-est asiatique, de l'Inde. Venant des péninsules arabiques, on a des échanges avec des chevaux, des armes, de l'eau de rose, et même les Européens ont participé en troquant de l'or ainsi que des métaux. Même l'Empire chinois a participé à ce réseau commercial qui était très important. Et il y a certains récits qui ont d'ailleurs bien expliqué cette expédition successive qui ont été réalisées par Tseng Yi, donc au cours de cette période du 15e siècle. Et très récemment, une archéologue, Chantal Radimla, a démontré que dans cette côte est Madagascar, probablement, les Chinois auraient atteint Madagascar déjà et s'y seraient déjà installés. Alors, elle a commenté effectivement des sépultures qui portaient avec eux certains gestes funéraires et qui étaient accompagnés d'un certain nombre de porcelaines chinoises et qui, selon cet archéologue, c'est un travail qui est en cours de publication, selon cet archéologue, montre bien que les Chinois ont déjà été à Madagascar. Donc nous faisons un saut, mais c'est dans ce contexte que Madagascar a été décrit donc pour la première fois par les Européens. Et à ce moment-là, il a été décrit comme étant l'île Saint-Laurent. Va s'en suivre ensuite une succession de différentes populations ou explorateurs européens, à commencer par donc, les Portugais, ensuite les Hollandais, les Anglais et pour finir les Français. Et on va aboutir à la période coloniale, ici, qui a commencé fin du 19e siècle. Donc, au cours de toutes ces périodes, de l'an 1500 à 1000, au 19e siècle au moins, on assiste à une traite importante qui touche les côtes est africaines, mais également Madagascar. Alors, comme vous avez dû en entendre parler, on en parlait beaucoup à un moment, de la traite transatlantique, où les populations africaines ont également participé à ce climat, en fonction des rivalités qui étaient en place entre les populations. Ce phénomène a également été décrit à Madagascar, notamment ce qui a souvent été décrit, c'est l'implication de certains groupes sakalaves, donc des régions sud-ouest et nord-ouest, qui avaient des contacts avec des populations, enfin des colons françaises, et troquaient des esclaves avec des armes. Alors, ce qui se passe à Madagascar, donc là, on avait le contexte un peu extérieur, mais à Madagascar, toujours dans la même période, ce qu'on voit, c'est qu'on a un climat d'extension de population. Alors, ici, dans le centre des Hautes Terres, on avait un royaume qui était dominant, qui est le royaume de l'Imerne, ou ce qu'on appelait les Houves, et qui commençait, et qui réclamait des origines austronésiennes, qui commençait à s'étendre à travers l'île. Donc là, vous avez les limites des extensions. Jusqu'en 1861, vous avez ici l'extension de cette monarchie. Dans le pourtour est, vous avez donc des comptoirs musulmans. Alors, c'est d'ailleurs dans cette région où a été décrit le premier centre urbain dont je vous ai parlé à l'instant. Dans la région du sud-est, les Afiraménides dont je vous ai parlé, les noms c'est un peu compliqué, un peu difficile à retenir, mais il s'agirait de migrants qui viendraient des îles du sud-est asiatique et dont les traditions orales se rappellent du moins jusqu'au XVIIe siècle. Donc vous avez aussi les Intémours qui seraient des Arabos islamisés, mais peut-être ils seraient aussi des Indonésiens qui seraient indianisés, donc qui seraient partis des îles de l'archipel indonésien au moment où ces archipels commençaient à recevoir des influences indiennes. Dans le sud-ouest, vous avez les Sakalaves, donc un grand groupe très étendu. Et dans le nord, ici, vous avez les Antaloches, les Ondates, qui auraient des origines chiraziennes, donc issues de la péninsule arabique. Et le contexte local était un contexte d'invasion et de résistance. Donc, on a observé beaucoup de rivalités entre les différentes populations qui profitaient d'ailleurs à la colonisation française. Donc, je rappelle cela parce que c'est un élément important dans l'histoire du peuplement humain de Madagascar. Nous allons le voir plus tard. Je vous ai parlé tout à l'heure un peu de ce dont se rappelle la tradition orale. Alors, quand on commence à connaître un peu Madagascar, on entend souvent parler des Vasibes, qui sont décrits comme étant les premiers habitants de Madagascar. Alors, les contes ou les mythes, les traditions orales se rappellent des Vasibes sur les Hautes Terres. Ils ont d'autres noms dans le sud-ouest, l'Impiaz ou Kouk. Donc, ces populations sont toujours définies et sont toujours un peu à la marge. Et d'ailleurs, sur les Hautes Terres, on ne sait plus trop qui ils sont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment, pour l'instant, se pencher sur la question. Je vais étudier les Vasibes, mais ça fait partie d'une histoire qui semble être commune aux populations malgaches. Parmi donc, les migrations qui sont retenues, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a celle des Aframénides, qui est une migration qui serait venue soit de la péninsule arabique, soit donc des archipels indonésiens, qui ont accosté le nord et descendu vers l'est de Madagascar. Et c'est une des migrations dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont amené en fait le concept hiérarchique, un système hiérarchisé dans la monarchie, et qui va en fait s'étendre à travers l'île. Alors, parmi les événements de traite, ce dont se rappelle la tradition orale, c'est celle des migrations des Makous, de la départation de Makous. En fait, ce sont des populations qui sont situées sur la côte est africaine, dans la région de Malawi, et qui sont actuellement forment un groupe à part dans le sud, dans le nord-ouest et le sud-ouest de Madagascar. Ensuite, qu'en est-il des données linguistiques ? Et en effet, à travers La linguistique historique, on peut également comprendre ou faire des extrapolations ou des interprétations sur les origines des populations. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une affinité à 90% de la langue malgache avec une langue indonésienne, et qui est le Maanyan, qui est retrouvé ici, parlé et retrouvé encore actuellement chez des populations du sud-est de Barito. Donc le Barito, c'est ce fleuve, et les populations actuelles sont localisées autour de ce fleuve. Donc, une parenté qui semble être avérée, mais avec des différents éléments également, qui sont des emprunts. Alors, si cette parenté pourrait refléter une parenté linguistique, pourrait refléter une parenté génétique, selon les linguistes, les emprunts ne sont le reflet que de contacts entre des populations et pas de parenté génétique. Donc, on voit dans la langue malgache des emprunts au javanais, au malais, au Sulawesi du Sud également. Alors, concernant le sanskrit, il y a une question qui est à part, et toujours avec la discipline de la linguistique historique. La linguistique historique, en fait, étudie à travers des éléments, des données linguistiques, et compare avec les données historiques pour essayer de tracer des histoires de peuplement. Le sanskrit a été découvert, les premières influences du sanskrit ont été découvertes sur une stèle dans cette région de l'est de Kalimantan, le Kalimantan étant la partie indonésienne de l'île de Bornéo, cette partie étant la partie malaisienne. Donc, une stèle qui porte des inscriptions sanskrit retrouvée dans cette région, à Morakaman. Quel est le lien avec les populations malgaches ? C'est qu'on trouve également une quarantaine de mots sanskrits dans la langue malgache. Alors seulement une quarantaine. Et qui semblent être des vocabulaires qui sont liés à des vocabulaires autour du commerce. Alors selon Autodal, qui a décrit ces différents mots qui sont retrouvés dans le malgache, l'influence est tellement peu qu'on ne peut pas relier cette présence du sanskrit dans la langue malgache comme étant un lien direct avec le sous-continent indien, mais qui serait plutôt une trace de départ des Austronésiens qui allaient vers Madagascar. Pourquoi ? Parce qu'au IVe siècle, donc la date découverte de cette stèle, le sanskrit commençait à peine à avoir de l'influence dans la langue indonésienne, et c'est à cette période que probablement les Austronésiens seraient partis vers Madagascar, en tout cas selon certains linguistes. D'ailleurs, c'est à partir de cette période que la technologie de la navigation va être maîtrisée et qui va permettre à ces Austronésiens de pratiquer de grandes migrations. Alors, si vous avez une idée, là, ça fait minimum 6000 km, donc il faut un système de navigation de haute mer pour parcourir de telles zones et une bonne connaissance aussi des courants marins. Alors, ces Austronésiens, où sont-ils partis ? Selon les linguistes, toujours, les Austronésiens seraient d'abord passés par la côte est-africaine. En tout cas, c'est l'argument actuel qui fait l'unanimité. Malheureusement, on ne trouve pas de preuves de cela sur la côte est-africaine. Ça aurait été très intéressant. Pas de preuves linguistiques ni archéologiques. Les premières traces de présence des Austronésiens dans cette région de l'océan Indien, donc dans le canal de Mozambique, et relaté par Ibn Shahryar en l'an 1900, quand il explique ou relate en tout cas la venue d'Austronésiens migrants avec leurs navires, leur bateaux conquérants, et qui vont chercher des esclaves indes. En fait, ce sont des esclaves qui étaient à Zanzibar, et pour les amener à Madagascar. Donc, j'en viens ici à la question des origines africaines des populations malgaches. En effet, différentes hypothèses arrivent, et pour l'instant, clairement, on n'a pas de questions précises, ce qui est assez étonnant parce que, vu le contexte géographique, il y a à peine 400 km qui séparent Madagascar des côtes est-africaines. Ce qui est le plus inconnu, c'est les origines africaines. Donc, d'une part, il y a les Austronésiens qui probablement auraient amené pratiquer donc des traites vers Madagascar. Et parmi les arguments, parmi les idées qui sont développées aussi, c'est que les populations africaines qui sont arrivées à Madagascar ne seraient que des populations issues de la traite des esclaves. Donc tout ça argumente cette question de la non-ancienneté du peuplement de Madagascar. Clairement, pour moi, la question reste posée, et je sais que, par exemple, professeur Brunet n'est pas du tout d'accord avec cette hypothèse. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui restent encore à démontrer. Donc, parmi les éléments qui nous permettent de faire le lien, on a des éléments linguistiques. Seulement, on ne peut pas du tout le relier comme l'ont fait certains linguistes sur les langues austronésiennes. On n'a pas d'indices qui nous permettent de raccrocher les éléments africains dans la langue malgache avec les éléments africains de la côte est africaine ou du continent africain. On a des éléments, au fait, des extrapolations à travers les langues qui sont retrouvées, qui sont parlées par les Comoriens. Notamment le Sabaki, qui était une ancienne langue bantoue, qui s'est scindée en deux, qui s'est éclatée, et qui, dont on retrouve actuellement dans l'archipel des Comores les affinités qui sont assez précises. Notamment, l'éclatement a donné le Swahili, et une branche sort de ce Swahili est retrouvée et parlée actuellement par des populations comoriennes, mais également des langues qui sont clairement appartiennent à des langues bantoues de cette région de l'Afrique. Les éléments qu'on a à Madagascar, et en fait, c'est peut-être surtout faute d'études poussées, ce sont des vocabulaires qui attraient aux animaux domestiques et qui semblent vraiment être retrouvés et peuvent être assimilés à des langues qui sont retrouvées sur les côtes est africaines. Donc, est-ce que ça reflète juste un système ou est-ce que ça reflète des migrations de population? Pour l'instant, on n'a pas de questions. Mais pourquoi ne peut-on pas aussi imaginer des migrations beaucoup plus anciennes que cela venant des populations africaines sur Madagascar? Donc là, je vous ai montré à peu près ce que l'on sait. Et en fait, c'est toujours à peu près. On pense savoir que les Malgaches auraient des origines indonésiennes, peut-être assez clairement dans cette région de Bornéo. Seulement, il reste à vérifier si cette parenté linguistique aura une parenté génétique. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas la réponse maintenant, parce qu'il s'agit d'études avec des populations qui pourraient être comparables avec celles des populations malgaches. Origine africaine, comme je vous l'ai dit à l'instant, point d'interrogation, on ne sait pas dans quelle région, donc j'ai essayé de faire une multiplicité de régions. Et si ce que nous voyons ici en rose, c'est la probable région de départ des populations africaines, si ils viendraient essentiellement de la traite des esclaves. Donc, beaucoup de choses n'est pas su, on ne connaît pas. Concernant l'ancienneté, donc là, au début, je vous ai parlé de l'ancienneté du peuplement, avec un peuplement qui aurait débuté, en tout cas une occupation permanente qui aurait débuté aux alentours du 5e siècle. Mais quand est-ce que le peuplement de l'île a réellement débuté? Ça, en fait, on ne connaît pas. Comment est-ce que le peuplement de l'île s'est mis en place? Alors, je vous ai dit, c'est quand même une île qui est immense. Comment est-ce que les différentes populations se sont rencontrées entre eux pour donner la langue, cette langue malgache qui est parlé par tout ce groupe? Comment s'est défini les différents groupes ethniques? Quels sont les origines des populations ancestrales malgaches? Alors, en ce qui concerne le processus de métissage et l'aspect démographie, ça fait partie des questions qui sont posées, mais dont je ne vous parlerai pas ici, parce que pour l'instant, on n'a pas des éléments concluants. Concernant donc la question de l'ancienneté du peuplement, alors j'ai fait exprès de mettre cette carte ici, qui va beaucoup plaire, notamment à M. Walsh, et qui, lui, a émis l'hypothèse que les migrations, en fait, là, vous avez en fait les migrations, les premières sorties de l'homme moderne hors de l'Afrique, et avec donnant naissance aux différentes populations anciennes. Donc vous avez ici les îles Andaman, les Négritos, les Papous, l'Australie, et que pour lui, Madagascar aurait été peuplé dès cette période-là. Alors je rappelle, 400 km qui séparent Madagascar des côtes est-africaines. Nous n'avons pas d'éléments pour l'instant, mais il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Mais je reviens aux différents indices. Les indices, on en a des indices paléontologiques qui sont très peu évoqués, qui sont toujours avancés de façon modeste. Et d'ailleurs, par la trouvaille au fait de différents subfossiles qui portent des traces de découpe. Alors pour l'instant, on ne sait pas si c'est à partir d'objets métalliques ou à partir d'objets lithiques, mais des éléments tranchants néanmoins. Donc ce sont des paléopropithèques qui portaient des traces de découpe et qui donc sont des indices de chasse pratiqués par des populations qui étaient dans cette région-là. Alors les auteurs très prudents avancent qu'il s'agit certainement seulement de visites et non d'occupation permanente. On est toujours là dans l'idée que Madagascar n'a pas pu être peuplé avant, ben là, maintenant, on remonte à 2003 ans, donc pour certains, pas avant, il y a 1500 ans. On a d'autres indices archéologiques, certes, qui restent à étayer. Alors, je vous ai montré cette pierre. Alors, souvent, cet outil lithique, excusez-moi, souvent, parmi les arguments qui sont notés et qui sont mis en relief pour montrer que le peuplement humain de Madagascar est très récent, c'est que, ben, en fait, on n'a pas, comme on disait au début, Madagascar n'aurait pas de préhistoire, donc on ne va pas trouver de l'industrie lithique, on ne va pas du tout trouver des traces de populations anciennes. Mais en fait, cet archéologue en a trouvé, qui commence, c'est une étude extrêmement récente, et qui continue encore à poursuivre dans la région, donc on est toujours dans cette région du sud-ouest. Donc, il continue à poursuivre dans cette région pour essayer de déterminer si on a vraiment des traces d'industrie lithique. On a également des indices génétiques. Alors, indices génétiques, certes, avec des datations moléculaires et qui est sujet à débat. Mais j'ai trouvé, à travers l'étude de population, de certaines populations malgaches, dont je vous déterrai les origines tout à l'heure, une lignée qui a un ancrage dans le temps ancien qui a 9500 ans. Ça ne veut pas forcément dire qu'il était présent il y a 9500 ans à Madagascar, mais en tout cas, on a une indice. Cette lignée, elle n'est retrouvée nulle part ailleurs qu'à Madagascar. Donc, elle n'a pas encore retrouvé dans les populations potentiellement ancestrales des Malgaches, notamment donc les populations africaines, des îles de l'archipel indonésien, mais notamment aussi de la péninsule arabique. Seulement, on a trouvé une portion. Donc là, en fait, vous allez avoir les différentes variations qui sont observées sur, ici, c'est l'ADN mitochondrial total. Et un certain nombre de ces variations sont retrouvées chez des populations, chez des individus, ici, retrouvés dans la péninsule arabique, mais également chez d'autres individus noirs nord-américains. Un certain nombre de questions est posée. Est-ce que nous avons ici le reflet d'un peuplement ancien pré-austronésienne et pré-probablement bantou à Madagascar. Donc, encore une fois, nous avons des indices. Très récemment, un mois, tout au plus, cette découverte montre ici, au fait, des subfossiles des hippopotames nains qui portent des traces de découpe. Donc, les traces de découpe, il n'a pas été étudié s'il s'agit de découpe métallique ou à partir de pierre, mais en tout cas, la datation semble remonter à 2000 ans avant l'ère chrétienne, sachant que la métallurgie, l'industrie, la métallurgie commence à apparaître dans l'ouest de l'Afrique il y a 4000 ans. Et que les côtes est-africaines voyaient l'expansion bantoue arriver, donc ces populations métallurgistes, qu'à partir de 2000 ans vers la côte est, 2000 ans, 1500 ans vers la côte sud-est. Donc la question est posée. Donc vous voyez, ici on a quand même un élément très important qui pourrait nous montrer et qui pourrait bouleverser l'histoire du peuplement humain de Madagascar. De façon plus indirecte, dans l'archipel des Comores, on a retrouvé, alors ces mêmes archéologues malgaches ont retrouvé dans l'archipel des Comores une véritable industrie lithique et datée de 4000 avant l'heure actuelle, c'est-à-dire une période qui s'approche de la découverte de ces subfossiles dans le nord-ouest de Madagascar. Alors, est-ce que c'est si aberrant de penser à un peuplement humain ancien de Madagascar? Je montre cette étude qui était une étude bathymétrique couplée avec les variations de la diversité de Madagascar et du continent asiatique. Et cette carte montre, donc il y a 20 000 ans environ, cette carte met en relief, au fait, différentes îles qui semblent en forme de chapelet et qui semblent avoir servi de migration de populations floristiques et faunistiques, notamment des oiseaux et des végétaux, et relie la biodiversité entre le continent asiatique et l'île de Madagascar. Est-ce qu'il est aberrant de penser que ce type de chapelet d'îles puisse avoir fait l'objet de migrations de populations humaines, sachant qu'actuellement, voilà ce que nous avons, c'est-à-dire que la plupart de ces îles sont complètement immergées. Maintenant, donc, nous avons questionné sur l'ancienneté du peuplement. Ensuite, ce que nous ne connaissons toujours pas, c'est comment est-ce que le peuplement s'est mis en place, que ce soit du côté des Indonésiens ou des Africains. Est-ce qu'ils sont arrivés par vagues ou de façon continue? Comment se sont définis les groupes? Alors, pour répondre à cela, c'est là que j'interviens en termes d'anthropologie génétique, qui consiste donc à échantillonner les populations malgaches et à en déterminer la diversité des populations, de déterminer les gradients observés à Madagascar, des différentes lignées qui sont retrouvées, et d'en établir ensuite un schéma de peuplement. Donc, il est sûr, ce travail fut l'objet de mon travail de thèse, donc, qui a duré 3 ans, et qui, bien sûr, ne pouvait pas étudier tout l'ensemble de populations malgaches. Pour cela, je me suis donc concentrée sur certaines problématiques seulement, notamment les origines austronésiennes, l'ancienneté des populations en ce qui concerne les chasseurs-cueilleurs, et nous allons voir que, en fait, les Vézes, qui sont des descendants de pêcheurs nomades, qui vivent juste à proximité des Mikkés, ces chasseurs-cueilleurs, vont me permettre d'étudier les relations entre les différents groupes. Les origines austronésiennes, à travers des populations sur les hautes terres, et en fait, des descendants de lignées royales, un nom ici totalement imprononçable pour vous, qui sont les Terakanjiatupkunjinj, qui, en fait, un roi au XVIIe siècle a donné toute une lignée et dont les descendants actuels se réclament originaires et qui sont localisés sur les hautes terres de l'île. Donc, un groupe, donc on est toujours dans le même groupe, même si vous ne reconnaissez pas le nom, le même groupe donc, situé sur les hautes terres et qui se réclame d'ascendance austronésienne. C'est un groupe qui est régi par une règle d'endogamie stricte, notamment depuis ses origines. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des Vazimbes, qui sont ces populations qui seraient les représentants des premiers habitants, et notamment sur les hautes terres. Un certain nombre de questions se posent quant au lien entre les Vazimbes et les Indjins. Les Vazimbes, comme je vous l'ai dit, reste une question posée dans la mythologie, mais n'empêche qu'actuellement, ce qu'on retrouve, c'est que ces Vazimbes sont craints. On raconte à travers l'histoire qu'ils ont été repoussés vers l'ouest, qu'il y a un couloir Vazimbes ici, et que les indigènes qui sont sur le centre, qui au fait sont des familles régnantes, n'ont aucun lien avec ces populations. Et très récemment, une historienne a étudié cette question et a déterminé à travers la tradition orale et un certain nombre de documents historiques qu'en fait, finalement, elle a trouvé un lien généalogique qui peut remonter, alors la généalogie qu'elle a réalisée, peut remonter jusqu'au XIIIe siècle et qui lie de façon très claire les indigènes avec les Basim. Les indigènes étant donc ses descendants de cette lignée royale, Ndjiatupkunjin. Donc la question donc, se pose sur les liens entre les premiers habitants des Basim ainsi que les indigènes, mais aussi leurs origines austronésiennes. Ensuite, je me suis concentrée sur les Mikkei, qui sont les sacheurs-cueilleurs. Alors, on dit Mikkei, qui sont localisés ici dans le sud-ouest de Madagascar, qui habitent actuellement une forêt minuscule, une forêt primaire, localisée ici de 490 000 hectares seulement. Vu son mode de vie, on argumente, on se pose la question si on a affaire ici une population ancienne, c'est-à-dire une population relictuelle dans laquelle on trouve des traces des premiers habitants de Madagascar. En tout cas, on a ici affaire à un des derniers chasseurs-cueilleurs de Madagascar. Donc je me suis concentrée sur cette population. Autour de cette population, également, se joignent ou se confrontent différents arguments, notamment donc, sur leur origine. Donc, est-ce que c'est la question posée, est-ce qu'on a affaire à une population relictuelle, reflet des premiers habitants, ou est-ce que, comme cela est souvent relaté également, est-ce qu'on a affaire à des populations qui sont retournées vers une mode de vie forestière et qui se sont réfugiées dans la forêt suite à des pressions, des monarchies, de la colonisation, etc. Donc, cette question, je l'ai posée. Et je compare cette population, alors si vous voyez tout à l'heure, les Vézo, les Mikkei sont retrouvés dans cette région. J'ai échantillonné des populations Vézo afin de voir les relations entre les différents groupes. Donc, bien sûr, en anthropologie génétique, on choisit des populations, on utilise des marqueurs, cela vous avait déjà été expliqué très clairement par professeur Christine Kaiser et Eric Rubesi. Je fais un bref rappel néanmoins pour les personnes qui n'ont pas été là. Donc, cellule animale classique avec à l'intérieur 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Et tout autour, ce que nous avons, ce sont ces petits organites qui sont les mitochondries, qui ont un génome mitochondrial à part et qui ne se recombinent pas avec l'ADN nucléaire et qui a une transmission uniparentale. Alors ici, c'est pour vous illustrer juste comment on arrive des chromosomes à l'ADN. Donc si on déroule le chromosome, ben, on a tout ce système structuré hélicoïdal sur lequel on va voir les gènes. 10% des gènes codent pour protéines, 90%. Pour les 90% restants, on n'en sait rien. Donc, on va lire, au fait, ces séquences génétiques pour déterminer les différents polymorphismes qu'on cherche et qui sont des marqueurs, qui vont devenir des marqueurs de population. Effectivement, donc, sur notre NAL, nous avons des brins d'ADN et il peut se produire certains événements de mutation, de substitution, c'est-à-dire que cette base ici azotée peut être substituée par une autre, donc il s'agit là d'un événement qui se produit de façon lente. Et par le fait qu'il se produit de façon lente, il va en fait servir de marqueur génétique. Il va se produire de façon lente et il va, dans cette mitochondrie, être transmis en bloc de génération en génération et va permettre de tracer les lignées maternelles. Lignées maternelles, pourquoi ? Parce qu'au moment de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, les mitochondries des spermatozoïdes qui sont localisées dans la queue, en fait, ne pénètrent pas l'ovule et donc ce sont les mitochondries de la mère qui sont transmises de génération en génération et qui est un véritable marqueur pour nous et nous permettent de voir les lignées maternelles des populations. De la même manière pour les chromosomes Y. Alors, donc, ces haplotypes, je reste encore sur les lignées mitochondriales, ces haplotypes donc, qui sont transmis en bloc, ce sont donc des séries de polymorphismes qui sont transmis en bloc de génération en génération, et vont être classés dans ce qu'on appelle des haplogroupes et qui vont être classés phylogénétiquement suivant les différents polymorphismes qui les lient. Et de cette façon, vont permettre de tracer les histoires de peuplement. Comme vous voyez, par exemple, ici, il y a certaines dominances des lignées. Ici, les lignées polynésiennes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont retrouvées, d'ailleurs, chez les populations malgaches. De la même manière, avec le chromosome Y, donc le Y qui est donc seulement transmis par l'homme, transmission uniparentale va permettre de suivre des lignées paternelles avec deux types au fait de polymorphisme que nous allons observer, qui sont ces événements ponctuels, toujours, qui sont lents, tellement ponctuels pour le chromosome Y qu'on l'appelle l'unique event polymorphisme, qui est au fait, peut se produire seulement en une seule fois au cours de l'histoire de l'homme, donc qui vont être de véritables marqueurs de population parce qu'ils ont des taux de mutation très faibles. À côté de cela, nous avons d'autres types de marqueurs qui sont plutôt qui ont des mutations beaucoup plus élevées et qui vont permettre de suivre les liens de parenté entre les différentes populations. Ce qui nous amène donc à tracer les lignées paternelles ici transmises par le père. Donc les STR vont permettre de tracer les lignées de proche parenté. Les proches parentés entre les individus, tandis que le SNP, qui sont des événements ponctuels, vont permettre de tracer des affinités géographiques, donc les origines géographiques. Et de la même manière qu'avec l'ADN mitochondrial que je vous ai montré à l'instant. Donc, nous sommes donc à cette question de la mise en place du peuplement, des différentes modalités. Allons tout de suite au résultat. Donc, je vous ai parlé de cette lignée royale. Alors, ce qu'on observe, c'est pour les lignées maternelles, on observe au fait une dominance ici de lignées asiatiques et le contraire est observé pour les lignées paternelles. L'endogamie est bien révélée par les STR, donc je vous disais qui permet de voir les relations de proche parenté, parce que par exemple ici cet individu dans ce groupe porte exactement les mêmes lignées, sachant qu'un grand travail, un large travail généalogique a été déjà réalisé pour sélectionner ces échantillons. Ensuite, en ce qui concerne les Mickey et les Vez, les Mickey, ces derniers chasseurs-cueilleurs, alors ce que nous voyons ici, c'est que nous avons en fait ici, un pattern qui est homogène en ce qui concerne les lignées asiatiques, que ce soit chez les Mickey, chez les Vez. Donc, il y a des populations, ceux qui sont au nord et ceux qui sont au sud. Et d'ailleurs, les mêmes comparaisons ont été faites avec les autres publications qui ont été réalisées sur Madagascar, et les mêmes lignées asiatiques sont exactement trouvées, avec un petit peu plus de diversité, cependant, pour les lignées africaines. La lignée ancienne dont je vous ai parlé tout à l'heure est ici retrouvée de façon plus importante chez les Mickey. Nous le voyons ici chez les Vez du nord et ceux du sud. Les Vez étant ces populations de descendants de pêcheurs nomades. Lorsqu'on regarde les lignées paternelles, quelque chose de très frappant. Alors certes, ça ne se compare pas réellement avec les lignées mitochondriales, étant donné que les taux de mutation ne sont pas comparables parce que ceux-là sont beaucoup plus lents. Donc, n'empêche, ce qu'on observe, c'est qu'on a une vraiment faible diversité des lignées asiatiques. Alors, totalement absent chez les Vez Nord, bien qu'on a un faible nombre de sujets qui a été étudié, d'hommes, en fait, dans cet échantillonnage. Donc, vraiment, on a un ou deux, trois haplogroupes seulement qui sont retrouvés chez nos populations, et ainsi que les populations africaines. De façon générale, que ce soit pour les lignées maternelles ou pour les lignées paternelles, on observe une faible diversité des lignées génétiques chez les différentes populations. Ensuite, en comparant les trois populations avec les publications qui ont été faites, donc notamment avec population du sud-est, population du centre, en prenant les lignées indonésiennes, en fait, on n'observait pas de différence significative entre la diversité des lignées, ce qui signifie que la diversité observée ici sur les lignées asiatiques est proche de celle trouver sur les hauteurs et également dans le sud-est. Et lorsqu'on voit les lignées africaines cette fois-ci, en comparant donc ceux qui sont retrouvés, alors ici j'ai mis en comparaison basse terre et haute terre, parce qu'il a toujours été, parmi les hypothèses qui sont rencontrées, c'est que les populations asiatiques, donc enfin, avec ses origines austronésiennes, sont beaucoup plus localisées sur les hautes terres et sont plus fréquents que sur le pourtour, les basses terres. Donc en comparaison avec les échantillons qu'on dispose, qui ne sont pas du tout représentatifs de la population de Madagascar, mais en faisant cette première approche, nous observons une différence significative, donc des lignées africaines beaucoup plus diverses sur les pourtours que sur le centre. Ce que semble refléter d'ailleurs cette mise en relation pour voir les affinités entre les groupes, les populations de haute terre sont bien éloignées de tous les différents groupes. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'étudiais les relations entre les Miquets et les populations qui sont environnantes, notamment ici les Vézes, ben ensemble, il semblerait qu'ils sont assez proches et que partagent des lignées importantes. En ce qui concerne l'ADN mitochondrial. Ici, c'est pour le chromosome Y. Alors, malheureusement, ces données sont peu interprétables étant donné le faible nombre de sujets mâles qui ont été comparés, mais on a une tendance à une individualisation entre les différents échantillons, entre les différentes populations. Alors, quelque chose qui était totalement inattendu, c'est le fait d'avoir trouvé exactement la même lignée d'STR du chromosome Y, c'est-à-dire cette lignée dont je vous parlais qui permet de voir les parentés proches. Donc, on a retrouvé une même lignée chez Zenanjin, c'est-à-dire ces descendants de lignée royale ici, chez les Antanus, qui est une publication qui était à part, qui a été réalisée par Tofanelli en 2009, et chez les Vézes du Nord, qui est un autre groupe que moi j'ai étudié. Donc c'est totalement inattendu. Alors on peut se poser la question. Je vous ai parlé tout à l'heure des Aframini, donc ces gens qui ont mené cette conception hiérarchique, du système hiérarchique sur les hautes terres, dans l'Est et également sur les hautes terres. Mais sachant aussi que la région du sud-est de l'île ont des relations certaines avec les populations du sud-est. Donc, est-ce qu'il s'agit ici d'une lignée d'élite? En tout cas, la question reste à creuser, mais très intéressante. Donc, concernant, pour résumer un tout petit peu ce que nous avons retrouvé, en ce qui concerne la question du vecteur austronésien ou pas, lorsqu'on regarde ce groupe Anjin, donc ses descendants de lignée royale sur les hautes terres, je vous ai dit tout à l'heure qu'on observait des lignées africaines qui sont importantes, alors qu'on a affaire ici à un groupe non seulement d'endogamie stricte, mais aussi qui se réclame d'origine essentiellement indonésienne. Donc, le fait d'observer ces lignées africaines, est-il reflet d'une ouverture récente ou d'un ancrage beaucoup plus ancien des échanges qui s'est opéré très anciennement? En tout cas, ça repose la question des Vasim, ses premiers habitants, ainsi que ses Anjins, donc cette lignée royale sur les hautes terres. L'ancrage semble beaucoup plus ancien, étant donné l'endogamie qui est retrouvée dans les populations. Vous voyez, donc il semblerait bien que les liens généalogiques qui ont été déterminées et qui ont été décrites par cette historienne reliant les Vasim, les premiers habitants, ainsi que les Anjins, ces descendants de lignée royale aristocratique, semblent exister. En tout cas, il faut l'approfondir, et ce, en échantillonnant d'autres groupes Anjins sur les hautes terres. Donc, il y a différents groupes encore qui devraient être étudiés. Et ce qu'on observait, c'était une faible diversité des lignées provenant des îles du sud-est asiatique. Alors qu'on peut se poser la question que si on a vraiment affaire aux populations qui sont les vecteurs austronésiens, je l'appelle ainsi, on devrait trouver un maximum de diversité. Alors cette question reste encore en suspens, étant donné que nous avons affaire, comme vous l'avez vu et que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à un groupe qui est très endogame et donc forcément qui va fausser les résultats que nous avons. Donc, Voilà en ce qui concerne la question de l'origine austronésienne. Maintenant, en ce qui concerne l'ancienneté. Alors, on a observé cette lignée beaucoup plus ancienne de façon plus importante chez les Mickey. Mais cependant, les résultats ne sont pas concluants. Est-ce que ces populations de chasseurs-cueilleurs portent réellement les traces des premiers migrants, des premiers habitants de Madagascar? Ce qu'on observe, c'est que le front de néolithisation est tellement important et presque inexistant, c'est-à-dire que l'avancée des populations donc de pêcheurs, d'agriculteurs autour a totalement absorbé la diversité de ces groupes de chasseurs-cueilleurs, qu'il est impossible pour l'instant, à travers ces marqueurs qui sont utilisés ici, marqueurs de lignée maternelle et paternelle seulement, pour voir cet ancrage ancien de cette population. Mais des approfondissements devront être réalisés avec d'autres marqueurs qui seront beaucoup plus informatifs. Donc, question de mise en place en ce qui concerne les vagues de peuplement. Il semblerait que les vagues venues des îles du sud-est asiatique semblent être beaucoup moins importantes, beaucoup plus limitées que ceux qui proviennent des îles des côtes est africaines, ce qui n'est pas étonnant vu la distance géographique. Le contraire aurait été extraordinaire, mais un peu étonnant. Maintenant, en ce qui concerne les origines des populations ancestrales, donc regardons. Donc ici, nous avons au fait une schématisation de la place de la population malgache dans la variabilité des populations africaines à travers les lignées du chromosome Y. Donc il s'agit au fait de regrouper les différentes populations potentiellement parentales des malgaches et en les comparant avec les différentes populations malgaches que nous avons. Et ce qu'on observe, c'est que les malgaches, donc c'est tous ces MADA, observés ici, sont bien éloignés de tout ce groupe qui sont retrouvés sur la côte Swahili. Donc, on ne retrouve pas les variabilités qui sont retrouvées dans cette région chez la population malgache, mais par contre, se rapprochent beaucoup des populations alors, du centre-ouest de l'Afrique, notamment l'Angola, le Gabon, et même beaucoup plus haut, la Guinée équatoriale, avec dans le sud-est une population qui se rapproche même de l'extrême-est, mais j'émets une réserve parce que différents éléments permettront de mieux, différentes analyses permettront de mieux différencier cela de façon beaucoup plus claire encore, c'est-à-dire de se poser la question si les malgaches, les motifs qu'on retrouve chez les malgaches, sont-ils si proches de ce que nous observons ici, alors que nous avons également la Mozambique, qui est dans la côte sud-est africaine, qui ont été également un des lieux des prélèvements d'esclaves. Bon, pour l'instant, cette question reste en suspens, et également reste en suspens aussi en ce qui concerne les lignées mitochondriales. Mais ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas du tout sur la côte Swahili, on est plutôt dans un mixte avec des populations bantoufones, vraiment très éloigné des populations. Alors ici, on a des pygmées du Cameroun. Donc, je le souligne parce que parmi les hypothèses qui ont été annoncées sur les origines des Mickey, ils ont, étant donné leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs, il y avait des hypothèses qui les affiliaient avec des populations pygmées du Cameroun. En ce qui concerne les lignées du chromosome Y, des îles du sud-est asiatique. Alors, nous voyons ici Madagascar, qui est en fait très éloigné, assez éloigné des groupes que nous retrouvons dans les îles du sud-est asiatique. Alors, très difficile pour l'instant de vraiment avoir une affinité. Pourquoi ? Parce que vous avez vu tout à l'heure les différents camemberts que je vous ai montrés avec la faible diversité qu'on a et qui est très différente de ce qu'on observe chez les populations retrouvées notamment Sumatra, dans les régions de Sumatra, Java et puis les régions du sud-est. Donc, pour l'instant, difficile de faire une conclusion là-dessus. En ce qui concerne les lignées maternelles, toujours un peu le même problème, c'est-à-dire que Madagascar est toujours un peu éloigné et avec ici regroupé, mais qui est beaucoup plus proche de Madagascar quand même, une distribution qui est assez large entre l'ouest et le centre de l'archipel indonésien et qui se rapproche un peu des origines linguistiques. Alors, un élément, cependant, qui est très intéressant, que j'ai mis en relief, et qui est la découverte de ce motif, qu'on appelle le motif polynésien, est retrouvé chez les Malgaches. Alors, je l'ai appelé le motif malagas, parce que c'est un motif qui est donc issu de ce motif polynésien. Le motif polynésien, je vous explique, c'est une lignée mitochondriale. C'est cette lignée mitochondriale dont je vous ai parlé au début, qui est un marqueur de la migration austronésienne. Donc ici, vous avez la répartition des langues austronésiennes, mais on le retrouve à très forte fréquence et qui est totalement région spécifique des régions du Pacifique, retrouvée jusqu'à 90% chez les populations de la Polynésie. Et cette lignée, eh bien, elle est retrouvée chez la population malgache à des fréquences non négligeables. Alors, je ne suis pas la première à l'avoir mise en relief, mais le fait de retrouver cette lignée chez la population malgache a soulevé un certain nombre de questions. Est-ce que les Polynésiens seraient arrivés jusqu'à Madagascar? Eh bien non, au fait, parce que là, nous avons une lignée mitochondriale. Alors, les lignées mitochondriales devraient être accompagnées des lignées de chromosomes Y aussi et devraient être retrouvées chez la population malgache, n'est-ce pas? Mais en fait, on ne le retrouve pas. Donc, on n'a que juste cette lignée mitochondriale qui est retrouvée chez la population malgache et pas de chromosome Y. Donc, ce ne serait pas les migrations, en tout cas, ça ne reflète pas les migrations austronésiennes qu'on retrouve dans le Pacifique. Mais toujours est-il qu'on a, en fait, un motif malagas. Pourquoi? Parce qu'on a une branche qui est donc issue de ce motif polynésien et une branche qui n'est retrouvée que chez les populations malgaches jusqu'à présent. C'est-à-dire que tous les sujets qui portent, qui ont pour origine maternelle cette lignée, portent exactement ces deux mutations, toutes. C'est-à-dire tous les sujets, tous ceux que j'ai étudiés. Pas ceux qui ont été étudiés par les différentes études, puisque je viens de le démontrer, mais en tout cas, on a ici un marqueur intéressant. Alors, est-ce que ce motif ici est né à Madagascar? Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, nous avons ici une piste très intéressante et qui pourra nous permettre d'avoir une idée de la distribution des lignées maternelles, potentiellement ancestrales, des Malgaches, et de façon beaucoup plus précise. Parce que si on retrouve ces deux régions-là, ces deux polymorphismes dans des populations, on a une idée beaucoup plus avancée sur les origines des Malgaches. Donc, des éléments intéressants qui avance. Voilà en ce qui concerne donc les origines maternelles. En ce qui concerne le processus de métissage et la démographie, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous en parler, ça va être extrêmement lent. Mais nos résultats ne sont pour l'instant pas concluants, faute de données de comparaison. Et comme je vous ai dit, on avait des éléments d'avance, mais on n'a pas de données concluantes, donc je préfère ne pas vous en parler. Mais en conclusion, qu'est-ce que nous avons et comment est-ce que nous allons poursuivre nos études? Donc, il y avait cette lignée qui a un ancrage de temps ancien, qui est retrouvée chez les populations étudiées actuellement, mais il y a certainement d'autres lignées anciennes qui sont les traces de peuplements plus anciens qui peuvent être retrouvées chez les Malgaches. Donc, ça nécessite des échantillonnages beaucoup plus importants de populations. Ensuite, en ce qui concerne donc le scénario de peuplement, des vagues beaucoup plus limitées venant de l'Indonésie, avec des migrations africaines qui peuvent être beaucoup plus diversifiées. Piste importante, le motif malagas. Et en ce qui concerne les origines africaines, notamment bantou, parce que nous l'avons signalé tout à l'heure, que nous avons plus d'affinités donc avec des populations bantoufones que les populations venant de Swahili, ben, il y a beaucoup de questions qui sont encore à poser et qui vont en fait être le sujet d'une publication que je vais réaliser sous peu, à savoir à préciser si on a plus des origines, des affinités avec l'Ouest, le Centre-Ouest ou le Sud-Est, sachant que l'expansion bantou a commencé donc vers l'ouest de l'Afrique et serait descendu pour une partie en tout cas vers la région du centre-est et s'étant poursuivie vers la région du sud-est. Donc, se serait-elle poursuivie jusqu'à Madagascar? Pour l'instant, ça fait partie des hypothèses à tester. Donc, plus d'échantillonnage chez les populations malgaches. Là, nous avons eu les sud-est, mais plus d'échantillonnage chez les populations malgaches du nord-ouest également, parce que pour l'instant, on n'a aucun élément. Et des parallèles qui pourraient être étudiés et à comparer avec des populations des îles Comores, qui n'a pas encore été fait pour l'instant. Il y avait des publications, mais ça va faire partie des études à faire, notamment parallèle entre schéma de peuplement des îles Comores et du nord-ouest de Madagascar. Est-ce qu'il y a des affinités là qui vont se faire? Ce qui reste à faire, comme le professeur Brunet l'a annoncé déjà tout à l'heure, des fouilles archéologiques devraient être à faire et certainement on va être amené à y aller sous peu, enfin j'espère. Et ensuite, à côté de ça, je vous ai parlé avec des études des populations modernes, mais les études sur des populations anciennes n'ont jamais été réalisées à Madagascar. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une vision diachronique, c'est-à-dire de comparaison entre les populations anciennes et les populations présentes, parce qu'il y a un processus évolutif qui va lier ou ne pas lier ces peuplements. Ce qui reste à faire aussi, et là, c'est le travail de linguiste, c'est de travailler beaucoup plus sur les origines africaines, et qui, comme je vous l'ai dit, est totalement inconnu. Travailler beaucoup plus sur les marqueurs autosomaux. Alors, moi, donc, je pourrais capituler, j'ai travaillé sur lignées maternelles et lignées paternelles. Les marqueurs autosomaux, alors, vous avez donc ces deux ici, qui sont, en fait, nous le recevons 50% de la mère, 50% du père, et au fur et à mesure des générations, donnent une richesse incroyable dans notre matériel génétique, et qui va, en fait, pouvoir nous permettre de travailler beaucoup plus sur les métissages des populations et l'ancrage dans le temps, des lignées qui sont retrouvées. Donc, et aussi, alors, une des grandes questions qui dépendent de nous, mais qui dépendent aussi de l'ensemble de la discipline d'anthropologie génétique, qui est le prélèvement de populations potentiellement parentales ou ancestrales. Parce qu'il était clair qu'à travers les données que nous avions, nous n'avions pas suffisamment de populations de comparaison pour pouvoir être concluantes. Alors, vous posez peut-être des questions sur... à quoi sert, au fait, ces différentes questions? Donc ici, c'est juste pour conclure qu'actuellement, au XXIe siècle, étudier l'histoire du peuplement consiste donc à mettre en place des faits actuels, également des faits du passé, et d'étudier le processus évolutif qui a amené et qui a modelé les différentes populations. Et c'est la compréhension de ce processus évolutif qui va nous permettre réellement de dresser les histoires de peuplement. Mais de connaître également autre chose, c'est-à-dire il y a certains processus, donc des processus d'effets fondateurs ou dérives génétiques qui dépendent en fait de la taille des populations à l'origine. Donc pour Madagascar, ici on a un peuplement de modèles en île avec des avènements de migrants, dont les populations qui sont retrouvées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ne reflètent plus la diversité des populations à l'original. Donc on a certainement ce qu'on appelle des effets fondateurs, mais également des phénomènes de sélection naturelle qui sont importantes. Et par exemple, si on prend l'exemple de la diabète de type 2, qui pourrait être donc une des applications sur la compréhension des processus de la mise en place de l'histoire biologique. Il y a certains polymorphismes qui sont localisés sur l'ADN mitochondrial qui entraînent certaines susceptibilités à la diabète de type 2, par exemple, et ce qui est très étudié dans les îles de l'archipel indonésien et qui est très fréquent, en fait, chez ces populations. Donc, comprendre ces processus, ces différents processus évolutifs vont nous permettre, en fait, totalement de proposer des idées aux politiques, aux ONG, par exemple, pour fournir un véritable travail d'épidémiologie prédictive et qui, en fait, vous avez tous entendu parler de la médecine prédictive qui, à l'échelle d'un sujet, peut être très peu informative, mais à l'échelle de populations comme Madagascar, est totalement pertinent. Et donc, la compréhension des processus évolutifs va nous permettre de proposer un certain nombre de recommandations, notamment quand je vous parlais de la diabète de type 2, qui relie probablement les populations du sud-est asiatique ainsi que les populations malgaches. Parmi, par exemple, des éléments qu'on pourrait proposer, c'est de développer des recherches beaucoup plus poussées sur les régions où les populations asiatiques sont beaucoup plus fréquentes et où on trouve des fréquences de diabète 2 beaucoup plus importantes. Et c'est sur cette note de perspective que je conclue. Merci à vous pour votre attention.